Les Antilopes du romancier et dramaturge Henning Mankell, une pièce étonnante qui a su séduire le metteur en scène Lorenzo Malaguerra. L'action des Blancs dans le domaine de l'aide internationale et leur trop fréquente incompréhension de l'Afrique, c'est Antilope, mais Antilope c'est aussi une théâtralité hybride entre le réaliste et le fantastique. C'est en tout cas un huis clos qui traite d'un enfermement, un enfermement qui provient de l'exil et de la peur de l'étranger, un enfermement qui génère de la violence et une dérive aussi vers la folie. Lorenzo Malaguerra, qu'est-ce qui vous a attiré pour être le premier en Suisse romande, voire en Suisse, à vous faire le passeur de ce romancier et dramaturge suédois Henning Mankell, surtout connu pour ses romans policiers jusqu'à présent?
Alors, ce qui m'a attiré dans la pièce, c'est, je crois que c'est avant tout le huis clos, la relation entre cet homme et cette femme, qui sont là en Afrique depuis, on ne sait pas très bien en fait, 10 ans, 13 ans, 15 ans, qui finalement, qui ont développé une relation complètement autarcique par rapport au monde extérieur, et qui finalement, partant avec énormément d'idéaux communs qui, semble-t-il, ont fondé leur couple ou l'existence de leur amour, ces idéaux ayant disparu, voilà, le couple s'est complètement disloqué. Et ça m'intéressait de travailler sur la théâtralité de ce, enfin, sur la réalité de ce couple-là, d'essayer de faire exister ces 15 ans de relation qui ont mené à une tragédie, à leur propre tragédie personnelle. Et donc théâtralement, c'est ça qui m'intéressait. Et puis sur le thème, je trouve très intéressant, qui est jamais traité au théâtre, du rapport entre l'Europe et l'Afrique, la culpabilité des Blancs qui vont en Afrique pour aider après toute cette perte de colonisation qui a été terrible, évidemment. Et je trouve que c'est intéressant de montrer une pièce qui fait le procès de la coopération.
Alors justement, Antilope met en jeu un couple de Suédois partis travailler en Afrique pour le compte de la Banque mondiale. Leur maison ultra sécurisée par peur de l'agression se transforme en prison. Cette pièce montre justement ce huis clos. Et Mankell écrit d'ailleurs sur l'infiltration de ce paysage de cette Afrique fantôme, ou peut-être imaginaire. Il écrit, je cite, « Les coassements des grenouilles et les soupirs de l'hippopotame sont à la fois à l'intérieur de la pièce et à l'extérieur, près du lit d'une rivière invisible. L'Afrique approche, les termites grouillent, l'herbe à éléphant pousse entre les meubles. L'espace scénique est une lutte entre éléments inconciliables entre mensonge et vérité. » Alors, mensonge et vérité, on y reviendra. Mais sur cette colonisation de l'espace par l'Afrique, par ces insectes, qu'est-ce que vous en avez retenu, justement?
Alors, c'est vrai qu'à la base, la pièce est conçue pour être jouée dans un appartement, en fait, suédois. Alors du coup, on ne sait pas effectivement si cet appartement se trouve vraiment en Afrique ou si il est en Suède et des personnages joueraient la comédie de l'Afrique en Suède. Nous, on a pris un parti un tout petit peu différent, qui est de se dire, bon, on est en Afrique, véritablement, donc l'Afrique est déjà sur le plateau, on a déjà du sable sur le sol, on a différents éléments, disons, la chaleur, simplement intrinsèque de l'orangerie où il fait très chaud, donc l'Afrique est déjà là dès le début du spectacle. Mais pour trouver le décalage en fait que l'auteur propose dans sa pièce, on a installé une série de petits animaux africains, des miniatures, qui montrent bien finalement au fond que oui, s'ils sont en Afrique, ils sont en tout cas dans une Afrique rêvée ou fantasmée, et qui considèrent les Africains ou tout le paysage africain comme des miniatures, c'est-à-dire comme à la fois quelque chose dont on est complètement supérieur et en même temps quelque chose dont on a affreusement peur. Donc voilà, ça c'est le parti pris que j'ai pris. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que je trouve que chez Mankell, cette histoire de l'Afrique qui arrive peu à peu sur le plateau, et je trouve très compliqué à réaliser théâtralement, parce que ça demanderait énormément le moyen que de faire tout d'un coup arriver de l'herbe qui pousse des meubles, etc. Et je trouve que c'est un peu, comment dire, dans l'écriture, je trouve que c'est un peu un procédé, ça devient un peu un procédé scénographique un tout petit peu explicatif sur cette espèce d'envahissement de l'Afrique. Et je pense que l'envahissement de l'Afrique, il est avant tout dans la tête de ces gens, et c'est la peur. L'envahissement de l'Afrique, c'est la peur qui mange ses corps et qui mange ses esprits, et et voilà, et qui les submerge complètement à la fin de la pièce.
Alors, cet aspect justement de déliquescence, de putréfaction qui est très présente, on voit notamment ces portes et cette porte sécurisée qui est comme celle d'un vieux vaisseau ou d'un sous-marin rouillé comme ça, qui préserve, disons, ce blockhouse, cet aspect bunker. Mais en même temps, effectivement, elle est dans les corps. Et je me rappelle de Jean-François Stévenin qui, en interprétant le rôle de Napoléon, n'avait rien lu sur lui, mais par contre avait demandé son dossier médical pour partir justement des failles du personnage. Et il est assez chargé dans le cadre de Napoléon et dans le cadre justement de celui, de ce coopérant qui travaille pour le compte de la Banque mondiale pour installer ses puits avec un insuccès certain. Il y a aussi cet aspect où véritablement il est mangé plus ou moins par ses asticots, par ses vers, et vous avez fait le choix d'une mise en jeu de ce comédien assez particulière, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il est sur le bord de la putréfaction, de l'implosion. Il est pris de phatrasie, il a des mouvements quasiment incontrôlés, des douleurs. Il va à un moment donné même se faire griffer par sa compagne, et on ne sait pas très bien si c'est une énucléation ou pas. J'entends, c'est un corps très stigmatisé déjà. Comment est-ce qu'on joue justement, parce qu'il y a beaucoup de, et je ne veux pas être trop loin dessus, mais il y a beaucoup de non-dits, et c'est vrai que Vitesse parlait du non-dit comme cette espèce de continent toujours à explorer, et je pense que dans le cas de Mankell, comme dans le cas d'auteurs dont il s'inspire peut-être, notamment Strindberg, il y a évidemment ça. Qu'est-ce qu'il en était justement par rapport à cela? À un moment donné aussi, on voit l'homme se pencher vers Caroline Kunz qui interprète la femme et lui dire: est-ce que tu as mal au ventre? Enfin, il y a un aspect vraiment qui est très lié au corps dans cette.
Alors effectivement, je crois que c'est la grande qualité de cette écriture, c'est qu'elle est en fait très corporelle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui font exister ces 15 ans d'Afrique au niveau du corps, des stigmates. Des stigmates sur le corps. Alors bon, nous on a fait un travail effectivement, je dirais très très physique là-dessus, c'est-à-dire disons en par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a convoqué des gens qui avaient vécu en Afrique, que ce soit leur enfance ou alors qui ont travaillé pour le CICR notamment, et de nous expliquer très concrètement, parce que moi j'ai jamais été en Afrique, mais qu'est-ce que c'était que de vivre en Afrique physiquement, la chaleur, qu'est-ce que ça signifie? Ces vers existent. Au Mozambique, effectivement, il y a des vers qui grouillent dans le sable. Et voilà. Alors, il y avait notamment quelqu'un qui nous expliquait que quand il était enfant, voilà, il marchait sur le sable, il jouait au foot et tout. Et puis, il y avait des vers qui arrivaient dans le pied. Et il nous expliquait la sensation de démangeaison absolue de ces vers. Donc, on a beaucoup travaillé sur les sensations, avant tout. Et puis ensuite de ça, ces sensations nous ont vraiment aidé, je crois, à trouver les personnages et à trouver leur réalité, et pas en faire une image, je dirais, cérébrale, quoi, de ces personnages, que vraiment ils sont là depuis 15 ans, et qu'est-ce que ça signifie que d'être là depuis 15 ans, d'avoir subi la chaleur alors qu'on vient d'un pays du froid. Voilà, c'est sur ça qu'on a travaillé énormément.
Alors, la première vision qu'on a du successeur, qui semble encore plus inadapté que les deux personnes auxquelles il va succéder, est porteur d'ailleurs d'un racisme et d'une supériorité néocoloniale qu'on verra se découvrir pleinement lors de la séquence terminale de cette pièce finale qui la scelle. En même temps, lorsqu'il apparaît comme ça dans cette porte, vous avez fait le choix effectivement qu'il apparaisse couvert de blessures et de stigmates avant qu'il ne prononce aucun mot. Pourquoi ce choix?
C'est vrai qu'il fait une apparition très, très surprenante. Et bon, c'est une indication de Mankell lui-même, hein, qu'effectivement cette personne arrive couvert de stigmates. On n'en connaît pas la raison réelle de ces stigmates, on ne sait pas d'où ça vient. Mais je crois que ça peut montrer différentes choses. Je crois que premièrement, selon moi, ce personnage en fait n'est pas véritablement réel. C'est-à-dire, je pense que c'est un personnage que les deux autres, enfin que ce couple fait apparaître. C'est-à-dire, ils ont tellement envie de partir de là, c'est tellement insupportable, que je crois qu'ils font apparaître quelqu'un qui pourrait en fait leur permettre de partir de ce bunker. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent plus à sortir de ce bunker, ils n'arrivent même plus à ouvrir la porte. Donc en fait, ils sont coincés. Ils sont coincés dans leur bunker en Afrique. Et donc, ils font apparaître un personnage qui, finalement, quelque part, peut apparaître comme un sauveur. Et d'ailleurs, il a des stigmates sur le torse qui nous rapprochent un tout petit peu de Jésus-Christ, réellement. C'est quelqu'un finalement qui, avec ses stigmates-là, porte un peu toutes les fautes de l'humanité. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est fait, au fond, il s'est fait déchirer. C'est un peu la culpabilité des Blancs en Afrique aussi, ce personnage, c'est un peu ça. Et puis je crois que, simplement, théâtralement aussi, enfin, au niveau de l'image, c'est assez impressionnant d'avoir au fond quelqu'un qui est couvert de sang. Ça donne encore une étrangeté supplémentaire à la pièce. Je pense que c'est assez intéressant.
Alors, c'est vrai que vous l'avez amené un petit peu dans un sens tout à fait particulier qui n'était pas nécessairement celui, et fort heureusement d'ailleurs, induit par Mankell dans son écriture, parce que on imaginait ce remplaçant qui arrive à habiller comme un ancien Connolen du XVIIIe siècle, avec son chapeau, ses lunettes d'approche, sa caméra, c'est en tout cas les éléments que lui donne Mankell, tout équipé comme un bon naïf, un bon capitaine qui arrive pour sauver l'humanité, une sorte d'ancien pionnier, découvreur de l'Afrique. En même temps, vous en faites, vous, tout autre chose. D'abord, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Hein. Ils ne se comprennent pas déjà dans le couple. Alors lui, il n'arrive pas du tout à trouver sa partition. Est-ce qu'il est là comme témoin d'abord d'un meurtre qui se serait passé il y a 11 ans et dont lui parle l'épouse de celui qui est en place? Est-ce qu'il est également le témoin des abus sexuels du mari qui a pris en photo contre une couronne des jeunes filles dévêtues dans des chambres d'hôtel? Et donc ça, c'était un petit peu assez étrange de voir ce mélange, ce cocktail, dirais-je, entre un aspect assez violent qu'a le personnage en termes de violence rentrée, et puis en même temps cet aspect où il ne sait pas de quoi il doit être le témoin sur le même an.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est effectivement ce que représente ce personnage, c'est qu'il est, au fond, c'est vraiment le Blanc qui, compatissant, qui essaie de comprendre l'autre, qui se met toujours, et finalement qui finit par s'effacer. C'est-à-dire qu'il vit en Afrique, effectivement, en disant ces pauvres Noirs, il faut que je les aide. Mais au fond, quand il arrive dans cette maison-là avec ce couple, c'est exactement ça qui se passe aussi vis-à-vis d'eux. Il se comporte vis-à-vis de lui de façon absolument ignoble. Il est dans un monde qui est absolument incompréhensible, devant lequel il devrait réagir. Enfin, on se dirait que toute personne normale devrait tout de suite poser les limites beaucoup plus clairement, soit par rapport aux photos, effectivement, que lui montre cette femme, ces photos qui représentent des petites filles noires dévêtues que le mari a pris. Oui, quelque part, il ne réagit pas. Je veux dire, voilà, il est juste choqué, mais enfin, il dit pas, c'est insoutenable de regarder ça, etc. Finalement, c'est un personnage qui accepte tout. Et donc voilà, en tant que tel, ça crée beaucoup de situations assez cocasses, en fait, parce que finalement, plus il accepte, plus il en subit, quoi, et plus ils lui en font subir. Et alors chez Mankell, ce qui est assez drôle, c'est que au fond, il accepte toute la violence psychologique et même physique, mais la seule chose qu'il ne supporte pas, c'est ces insectes, quoi. Et finalement, c'est les insectes qui vont venir à bout de sa patience et de sa compassion, et qui vont en fait le transformer complètement, le renverser comme une chaussette, quoi, véritablement. Et il va finalement affirmer toute cette violence rentrée qu'il a, avec un discours alors absolument épouvantable et ignoble sur les Noirs qui sont autour de lui. Et voilà, et c'est comme ça que finit la pièce, quoi.
Oui, alors justement, ce qui a aussi d'intéressant, et ce qui peut amener dans cette ambiance exacerbée, cette atmosphère tirée au couteau, c'est effectivement les choses qui sortent progressivement de ce couple. On apprend ce qui s'est passé, même à demi, leur déroute, leur dérapage. On est confronté à une forme de drame intime, à une relation de couple qui s'effrite et d'un rapport assez complexe d'ailleurs entre hommes et femmes. Hein. Donc cet aspect à la fois drame social et drame beaucoup plus intime, et notamment ce mort, hein, qui fonctionne peut-être un peu de la même manière, mais selon ses modalités propres, que le mort chez Combat de Nègre et de Chien de Coltès, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une étrangeté irréductible qui est là. On ne sait pas très bien si c'est le mari qui a tué ou si c'est Eisenhower, le gardien de nuit noir, qui aurait tué ce noir. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel revient de manière quasiment obsessionnelle la femme.
Oui, alors ça, c'est effectivement très intéressant. Dans l'écriture, c'est que, bon, Mankell est un écrivain de romans policiers, donc il manipule très très bien les fausses pistes. Hein. Et dans la pièce, notamment dans le premier acte, il multiplie les fausses pistes, c'est-à-dire effectivement on a cet Africain mort, on ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas qui l'a tué, on a une bouteille de gin vide qui est là, on ne sait pas comment elle est apparue, etc. Et je crois que ces fausses pistes au fond incitent le spectateur d'abord essayer de les suivre, se dire bon, mais qui a tué cet Africain, d'où vient cette bouteille de gin, etc. Et au bout d'un moment, comme le spectateur voit que ces pistes ne mènent à rien, finalement, ça le plonge dans une irréalité. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, finalement, ça peut être absurde, où il n'y a rien, où finalement, il n'y a peut-être plus rien à comprendre. Et à ce moment-là, au moment, je crois, où le spectateur est le plus en doute, apparaît un élément concret, qui sont ces photos de ces petites filles noires qui, tout d'un coup, sont réelles. Et tout d'un coup, on comprend pourquoi cette relation est devenue aussi mauvaise, pourquoi cette femme est absolument dégoûtée de cet homme, qu'elle ne supporte plus même la vision de son mari. Et tout d'un coup, effectivement, tout cet univers qui est parti dans une chose très irréelle et qui s'est construit comme tel, et bien tout d'un coup, l'irruption de ces photos, c'est comme si c'était une irruption de la réalité, sordide, absolument sordide, et là, ça met la pièce tout d'un coup sur un rail qui devient beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus dénonciateur par rapport à la situation des Blancs en Afrique.
Alors justement, cet aspect, disons, d'investissement des Blancs en Afrique, il y a notamment cette question, cette interrogation qui revient à plusieurs reprises, qui est, je crois, en substance, celle qui dit, est-ce qu'on est là pour les faire vivre ou les faire mourir, d'une certaine manière, ce que d'ailleurs pas mal d'humanitaires et de gens qui ont témoigné sur l'action humanitaire de manière extrêmement critique ont repris, effectivement, avaient dit avant Menkel. Donc qu'est-ce qu'il en est peut-être par rapport à cette question d'aide, parce qu'on comprend à demi-mot que, effectivement, par rapport à ces 300 puits qui devraient être installés, ça, on comprend qu'il n'y en a que 4 qui ont été installés, que d'autre part, ce n'est pas nécessairement la mauvaise volonté du porteur de projet, ou en tout cas celui qui doit s'en faire le relais, c'est-à-dire cet homme de la Banque mondiale, mais qu'il y a des vols qui interviennent, notamment des vols de bus, de moteurs, par rapport à ça, et peut-être tant mieux qu'il y ait ces vols, parce que ça veut dire que quelque part ailleurs, d'autres choses se créent aussi en parallèle et permettent de vivre, pourquoi pas, mais j'entends, c'est vrai que il y a toujours cette réflexion sur l'aspect, voilà, est-ce qu'on a été utile à quelque chose? Est-ce qu'on était là pour les faire vivre ou les faire mourir? Comment est-ce que, sans répondre à la question, comment est-ce que ça se transmet aussi dans ces personnages qui sont aussi un petit peu dans, je dis pas entre la vie et la mort, mais en tout cas, le mari a l'air pas tout à fait là, et la femme glisse comme peut-être Gina Rowlands dans Une femme sous influence, ou d'autres héroïnes strindbergiennes vers la folie la plus totale.
Mmh. Oui, c'est vrai. Chez Menkel, dans les romans de policiers, le commissaire Wallander, qui est le personnage principal de ces romans, dit toujours il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Hein, donc je crois que Menkel utilise au fond, met en scène des personnages qui sont toujours sur cette limite, qui sont à deux doigts, au fond, à deux doigts de mourir en permanence, soit parce qu'ils sont dépressifs, soit parce qu'ils se mettent dans des situations dangereuses qui font qu'effectivement leur vie est en danger. Donc, effectivement, cette question, elle est reprise sous une forme différente dans la pièce. C'est sûr que, au fond, ce qui met en jeu Menkel là-dedans, c'est de dire, ok, bien sûr qu'il faut aider l'Afrique, peut-être qu'il faut aider les Africains, mais c'est pas en leur redonnant ce qu'on leur a pris un siècle plus tôt qu'on les aide réellement. C'est-à-dire que là, on apporte une espèce de technologie avec ses puits et ses pompes, etc., qui convient pas au terrain, simplement. C'est-à-dire que c'est pas en mettant des pompes que les gens savent pas utiliser qu'on va les aider. Donc effectivement, et il le dit à un moment donné, ce qu'il faudrait au fond, c'est d'avoir simplement un seau, une manivelle et une chaîne, et c'est ça qui pourrait vraiment les aider. C'est-à-dire de se mettre au fond, si on veut aider quelqu'un, c'est d'essayer de le comprendre déjà. C'est de se mettre à son niveau, qui n'est pas ni inférieur ni supérieur, c'est pas là le problème. Mais c'est de nouveau de partir avec cette idée qu'on est supérieur à l'autre. Et aider quelqu'un dont on pense qu'on est supérieur à lui, c'est pas une aide finalement, c'est une façon de plus de l'exploiter. Et de l'écraser, de le détruire. Et c'est pour ça que finalement, ce que dit la femme à la fin de la pièce, c'est de dire, mon mari a posé la question et maintenant il connaît la réponse. C'est-à-dire, on est venu ici pour les aider à mourir. Puisqu'on est venu ici dans l'idée qu'on était supérieur à eux et donc qu'on les a écrasés et que finalement on les a fait mourir.